Chapitre 10. Le funérarium Cocklay et Ashton recevait les familles de Boston depuis plus de 70 ans. Didier était déjà venu à deux reprises dans cet établissement. Une gracieuse demeure à la façade blanche, de style colonial. La première fois pour le décès d'un ami, et la seconde pour rendre un dernier hommage à un collègue. Dans les deux cas, elle avait été frappée par les puissantes odeurs de fleurs fraîches et de chair embaumée. Ce n'était sans doute pas un aveu à faire de la part d'une enquêtrice de la criminelle, mais les funérariums lui faisaient froid dans le dos. Peut-être la mort lui était-elle tout simplement trop familière, et que la voir dans cet environnement aseptisé la lui rendait étrangère. Comme rencontrer un ancien amant qui ne ressemblerait plus du tout aux souvenirs qu'on en avait gardés. Le directeur de l'établissement, Daniel Cocklay, attendait sa visite. C'était un monsieur d'un certain âge, avec de larges épaules et une épaisse chevelure blanche. Il portait un costume gris-souris impeccablement coupé, et il se dégageait de toute sa personne une impression de sérénité qui devait apaiser les familles éperdues de chagrin et favoriser les confidences. Didier serra la main qu'il lui tendait et le suivit à travers le hall lambrissé, puis dans le couloir moquetté de rouge, jusqu'à son bureau. Contrairement au reste de l'établissement, où régnait une atmosphère sombre et surannée, le bureau de Cocklay était étonnamment lumineux et moderne. De grandes fenêtres qui donnaient sur une pelouse, une bibliothèque encastrée blanche, un bureau en érable naturel sur lequel était posé un discret ordinateur portable dernier cri. Didier aurait presque recommencé à respirer, n'était l'inévitable composition florale qui trônait sur le rebord de la fenêtre. « Des glaïeuls », observa-t-elle. « Je me trompe ou on en trouve dans presque tous les bouquets funéraires ?»«
C'est la fleur du souvenir », lui expliqua Cocklay. « On la choisit donc souvent pour les obsèques. Elle symbolise aussi la force de caractère, l'honneur et la fidélité. » Ce qui fait autant d'autres bonnes raisons.
Didier hocha la tête et se racla la gorge. Elle ne savait pas très bien par où commencer. Cocklay lui adressa un sourire encourageant. Elle se fit la remarque qu'il avait l'habitude que ses interlocuteurs soient mal à l'aise et l'interrogent d'un air embarrassé. Cela ne la détendit pas pour autant. Prenant les choses dans l'ordre, elle se fit confirmer que Cocklay et Ashton existaient depuis 3 générations. Et que Daniel en était à la fois le directeur et le responsable de l'équipe de thanatopraxie. Elle apprit que les thanatopracteurs devaient passer par une école spécialisée et suivre un apprentissage d'un an avant de décrocher leur licence. Bon à savoir. L'entreprise comptait également 3 salariés à plein temps et 5 à temps partiel, qui accomplissaient des tâches administratives, préparaient les cérémonies et pouvaient même être amenés à porter le cercueil. Cette dernière information retint l'attention de Didier. Et ces autres salariés, comment les recrutez-vous? Demanda-t-elle en se penchant vers Cocklay. Qu'est-ce qui les attire vers cette profession? Cocklay eut un sourire en coin.
D'où leur viendrait l'envie de travailler dans un funérarium, vous voulez dire?
Didier ne se troubla pas. Exactement.
Mes employés à temps partiel sont des retraités du quartier. Beaucoup d'entre eux sont à ce stade de leur vie où ils ont eu l'occasion d'assister à grand nombre d'enterrements, et je crois qu'il leur plaît de rendre cette épreuve plus facile à d'autres. Ce sont surtout des hommes, curieusement. Et je dois dire que la majorité des familles trouvent leur présence réconfortante.
Et le reste du personnel?
J'ai une secrétaire qui travaille avec moi depuis des décennies. Je crois qu'elle serait la première à reconnaître que lorsqu'elle s'est présentée pour l'entretien d'embauche, l'idée de travailler dans un funérarium l'a prise à revers. Mais, comme elle l'a dit, répondre au téléphone, c'est répondre au téléphone. D'ailleurs, à part les soins de thanatopraxie qui se déroulent en coulisses, nous ne sommes pas tellement différents de n'importe quelle autre société. Nous entretenons notre flotte de véhicules, nous avons un service administratif.
Il montra la pièce autour de lui.
« Nous éditons des bulletins de salaire, nous payons des impôts. C'est une entreprise et la plupart de mes employés travaillent sans doute chez moi comme ils travailleraient n'importe où. C'est un bon emploi, je les traite bien et ils se sentent reconnus. » Didi hocha la tête. Elle comprenait ce qu'il voulait dire, mais n'était pas entièrement d'accord. Coquelet avait beau affirmer que sa société était une entreprise comme les autres, il avait affaire à la mort tous les jours. La plupart des sociétés ne peuvent pas en dire autant, et beaucoup de gens ne se seraient pas sentis à l'aise. Vous pourriez peut-être me donner un aperçu de la façon dont vous travaillez, fit-elle. Vous recevez un appel, quelqu'un est décédé. Et ensuite? Le défunt est transféré dans nos locaux. De quelle manière? Il y a divers moyens. Nous sommes habilités à aller chercher la dépouille dans les hôpitaux de la région. Sinon, il existe des entreprises spécialisées dans le transport funéraire, en particulier sur longue distance. Par exemple, il peut arriver que les obsèques se déroulent à Boston alors que le décès a eu lieu en Floride. Il faut donc transporter le corps d'un endroit à l'autre, et cela outrepasse notre rayon d'action. Didi prit note. Les entreprises de transport funéraire. Encore des employés que cela ne dérangeait pas de passer des heures en compagnie de cadavres. Peut-être même était-ce précisément pour cette raison que certains embrassaient une telle carrière. Et ensuite ? Je rencontre les proches, je détermine ce qu'ils souhaitent pour les obsèques, cercueil ouvert ou fermé, crémation. Naturellement, leurs choix ont des conséquences sur l'étape suivante, les soins de conservation. Comment préparez-vous le corps ? Ce fut plus fort que Didi. Elle tendit l'oreille, tout en curiosité morbide. Daniel Coquelet sourit, mais plus faiblement cette fois-ci. De toute évidence, la question lui avait déjà été posée. Sans doute lors d'innombrables cocktails par des gens chez qui la fascination le disputait à l'horreur.
En gros, le travail du thanatopracteur consiste à remplacer le sang par un fluide antiseptique.
On pratique plusieurs petites incisions dans les principales artères et on injecte un liquide formolé dans le système circulatoire, ce qui expulse le sang. Vous préparez le corps avant les soins ? Vous le lavez, par exemple ?
Non, les soins peuvent être assez salissants. Personnellement, j'attends la fin. Et ensuite, je toilette le corps entier.
Est-ce que vous avez des solutions nettoyantes de prédilection, des produits professionnels ? Elle repensait aux scènes de crime, à ces chambres d'une propreté presque incroyable.
J'utilise un savon antiseptique classique. Il n'abîme pas les tissus et il est assez doux pour être appliqué à main nue.
Didi griffonna encore une note. Savon antiseptique, comme le légiste en avait retrouvé sur le torse de la première victime. Et ensuite ? Insista-t-elle. J'imagine qu'il faut également nettoyer la pièce.
On opère sur une table de préparation en inox, très semblable à celle dont se servent les médecins légistes pour leurs autopsies. Elle est dotée d'une rigole d'évacuation, bien sûr. Ensuite, on la rince au jet et on la désinfecte à la javel. Rien de compliqué, ce qui est bien commode en cas de pic d'activité.
Didi fit la moue, pensive. Au milieu de la nuit, elle avait fait une fixation sur l'idée que leur tueur était particulièrement à l'aise en compagnie des morts. Ce qui, par association, l'avait fait penser au funérarium. Peut-être un thanatopracteur, quelqu'un qui posséderait des compétences techniques et qui aurait appris à manier le scalpel pendant sa formation. Et puis, le soin que le tueur avait mis à nettoyer la scène de crime l'avait amené à se demander quels produits spécifiques on pouvait utiliser dans les funérariums pour effacer toute trace de sang et de fluide corporel. À creuser.
Je peux vous poser une question ? Demanda soudain Coquelet.
Je vous en prie.
Est-ce que notre entrevue a un quelconque rapport avec l'affaire du tueur à la rose ?
Pardon ?
Le tueur à la rose. En l'occurrence, je cite la une du Boston Herald, ce que les enquêteurs sérieux ne font peut-être jamais.
Didi ferma les yeux. Il ne manquait plus que ça. La police de Boston avait été bien inspirée de ne pas informer la presse des détails du premier meurtre. Didi aurait dû se douter qu'un tel coup de chance ne se reproduirait pas. « Est-ce que j'ai envie de savoir ce que dit le Herald ? » demanda-t-elle en rouvrant un œil. « Ou plutôt quels détails sensationnalistes ils ont balancé sur 5 colonnes à la une ?» Coquelet lui accorda un regard compatissant.
« L'article prétend qu'il y a eu 2 victimes. L'assassin les aurait tués dans leur lit et aurait laissé une rose sur leur table de chevet. » comme un amant dénaturé. Autre chose? À part le fait qu'il les a écorchées vives, pas vives. Didi s'aperçut un peu tard qu'elle n'aurait pas dû relever. Cela dit, Coquelet était directeur de funérarium, pas journaliste. Écoutez, ça doit rester entre nous, mais les victimes étaient déjà mortes quand elles ont été écorchées. C'est en partie pour ça que je suis là. Sans trop entrer dans les détails, notre assassin... Disons qu'il a passé plus de temps avec les victimes après leur décès qu'avant. On dirait presque que le meurtre lui-même n'était qu'accessoire. Il, ou elle, veut avant tout un cadavre. « Nécrophilie ?» murmura Coquelet. « Aucune trace d'agression sexuelle, » répondit Didi. « Tant qu'à faire une bêtise, autant ne pas la faire à moitié. » « Et c'est pour ça que vous avez pensé au directeur de funérarium. Parce qu'il va sans dire que des gens qui passent leur vie en compagnie de cadavres éprouvent pour eux une fascination malsaine. » dit posément Coquelet. Didi eut le bon goût de rougir. « Je sais, » dit-elle. « De la même façon que des gens qui passent leur vie à enquêter sur des meurtres éprouvent forcément une fascination malsaine pour la violence. » « On se comprend, déjà. » « On se comprend. » Savez-vous ce qu'il faut pour faire un bon directeur de funérarium, commandant Warren ? Sans doute pas. De la compassion, de l'empathie, de la patience. Certes, une partie de mon travail consiste à préparer un corps en vue des funérailles. Une opération qui exige des années de formation technique, mais qui, sincèrement, tient aussi de l'art. Les bons thanatopracteurs ont une opinion sur le pourcentage de formol idéal et le maquillage correcteur le plus réaliste. Mais nous ne travaillons pas dans l'abstrait. Notre objectif est de transformer une cérémonie triste, bouleversante et souvent effrayante pour les familles, en un moment cathartique. Tous les jours, je rencontre des gens qui sont vulnérables comme ils ne l'ont jamais été. Certains réagissent par des pleurs et d'autres par de la colère. Mon travail consiste à prendre chacune de ces personnes par la main pour la faire entrer en douceur dans son travail de deuil, avec beaucoup de compassion, d'empathie et de patience. Maintenant, si on oublie le fait que je suis relativement à l'aise en compagnie de cadavres, est-ce que je vous fais l'effet d'un assassin ? Didi rougit à nouveau. Non. Je vous remercie. Mais... Daniel Coquelet haussa les sourcils. Pour la première fois, il paraissait non seulement surpris, mais également aussi proche de l'agacement qu'il était capable de l'être. Mais... Ce que vous me décrivez, ce sont les qualités nécessaires à un bon directeur de funérarium. Peut-être que j'en cherche un mauvais. Coquelet la regarda d'un air soucieux. Ou alors... reprit-il brusquement. Un raté. Je ne peux pas dire que ce soit fréquent, mais il m'arrive de temps à autre d'avoir un apprenti à qui manque de toute évidence les compétences relationnelles nécessaires pour exercer cette profession. Et que faites-vous dans ces cas-là?
Je romps le contrat.
Vous auriez une liste?
Allons donc. Je ne me rappelle plus que d'un seul exemple. Et aux dernières nouvelles, cette personne s'est réorientée vers une école de cuisine, et elle s'en sort bien. Vu l'ampleur de votre enquête, il me semble que vous devriez ratisser plus large, au lieu d'aller de funérarium en funérarium. Que suggérez-vous ?
Les instituts de formation au métier du funéraire ? Il y en a deux à Boston, pour voir s'ils seraient prêts à donner les noms des étudiants qui ont été recalés. Je peux aussi me renseigner de mon côté. C'est un petit milieu. S'il y a un nom en particulier, un... Comment dites-vous déjà ? Un individu intéressant sur lequel vous aimeriez en savoir davantage. Je pourrais sans doute passer quelques coups de fil.
Je vous remercie.
Nous ne sommes pas une bande de vampires, dit doucement Coquelet alors qu'elle se levait. Ce n'était pas ce que je voulais suggérer. Mais il est exact que nous attirons de temps à autre... des tempéraments morbides. Ça m'arrive tout le temps, lui assura Didi. Coquelet lui adressa son petit sourire, puis, tranquillement mais fermement, la raccompagna.